qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz.
Bonjour et bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et de la restauration de la Confédération nationale du travail, animée en direct et sans retenue ni complaisance chaque premier, troisième, cinquième lundi du mois par ses militants après leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire. Édito du lundi 6 février 2023 du Monde Merveilleux d'après. Plus qu'une émission où l'on interviewe des invités, le Monde Merveilleux du Travail, qui ne parle pas que de travail, est un salon où l'on échange. Nous recevons ce soir Jean-Michel Rodrigo pour son film documentaire Via El Salvador, les bâtisseurs du désert. Où une communauté urbaine autogérée du Pérou a développé un système d'autogestion où toutes les infrastructures sont construites par la population avec les ressources disponibles, et ce depuis le début des années 70. Et pour alimenter le débat, Jean-Manuel Trémont, locataire durant 4 ans du plus vaste squat d'Europe, Christiania, Copenhague, qui nous guidera à travers des pratiques qui nous sont chères. La chronique « Les mémoires d'un anar » introduira l'émission pour un retour de manif. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans téléphone mobile. J'espère que vous avez coupé le vôtre. Voilà. La semaine dernière, ça n'arrêtait pas de sonner dans le studio. Les auditeurs pourront appeler durant les pauses musicales. Alors, comment construire une société autogérée avant qu'on ne doive passer notre retraite dans des cartons d'emballage Amazon ? Vous le saurez en écoutant le monde merveilleux du travail, avec un bonnet des Andes et un badge Serge Lama.
Grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagor, hourra. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé ?
Ah, une technicienne qui nous a mis le jingle du Mercator, c'est pas grave. Je me suis rendu compte que nos annonces militantes du monde merveilleux du travail invitent tout le monde à manifester, mais sans jamais lancer aucun appel incitant à se réunir en assemblée générale pour décider dans quelles conditions nous, producteurs, on devrait intégrer la manifestation. Grévistes ponctuels ou travailleurs en grève illimitée. On n'a pas fait mieux que les centrales syndicales institutionnelles. On n'a pas fait pire non plus. On compare souvent les manifs retraite avec les grèves de 95. Dans la mobilisation numérique, on peut, dans le déroulement, c'est moins vrai. À l'époque, les bases avaient déclenché des grèves et elles étaient à l'origine des manifs. Les centrales syndicales, d'alors, avaient eu bien du mal à canaliser tout ce bordel avant d'en prendre les rênes afin de stopper des quatre fers le mouvement social. Là, ils se sont dit « on va prendre les choses en main tout de suite et puisque Berger est habitué aux moutons, on va lui laisser décider les dates de sortie pastorale ». Unité syndicale qu'ils montrent, les permanents syndicaux. Après le désaveu des gilets jaunes, faut montrer qu'on est tous là. Du coup, samedi 4 février, je profite que le délégué syndical UNSA soit devant la machine à café, entouré de quelques salariés pour lancer à la dérobée. Alors, quand est-ce qu'on l'a fait quand est-ce qu'on fait une AG afin de convenir de l'intégration dans le mouvement syndical? On me regarde, une salariée me dit « là, tout de suite ». On est cinq que je réponds. Mais nous, on ne peut pas faire grève, on a besoin de l'intégralité de nos salaires. Ben justement, on va décider comment on va faire pour tenir et pourquoi. Ce n'est pas seulement les retraites, c'est la casse des services sociaux qui est en jeu. Le DS UNSA tourne alors les talons et lance « il y a encore un scandale de corruption au gouvernement ». Et basta, l'AG était finie. Ces petits scandales politicards qui agrémentent la routine des parlementaires, abondamment relayés par les médias, n'ont pas d'autre objet que détourner les masses, prolétarienne de leurs intérêts de classe dominée. L'horizon politique et intellectuel du lumpenprolétariat ne dépasse pas les divertissements télé de Cyril Hanouna et les analyses journalistiques de Pascal Praud, quand ce n'est pas les révélations véridiques des pasteurs évangélistes qui expliquent sur Internet les divers complots fomentés par l'État français. Ma tâche de pourvoyeur d'ouvriers révolutionnaires était perdue d'avance. Quelle déception! Je me suis emballé trop vite. Pourtant, mon collègue Fredo avait décidé le 31 janvier de me suivre au point de rendez-vous CNT à Gobelin. Je me suis dit qu'il ne fallait pas grand-chose pour que l'étincelle embrase tout le magasin dans lequel nous travaillons ensemble. Que nenni! Le lendemain de la manif, le 32 janvier, ou plutôt le 1er février, je croise la titulaire CNT au CSE dans les couloirs du magasin. « Ça va ?» me demande-t-elle. « Moi, j'ai mal aux fesses et aux jambes. » « Qu'est-ce que tu as fait ?»« Ça se trouve, me dis-je, elle est allée manifester à mon insu sans que je la trouve dans le cortège CNT, il est tellement étendu. »« Ben, avec les grèves, j'ai dû marcher jusque chez moi. » »« Le chez moi, c'est dans le 13e, c'est-à-dire près de la place d'Italie, juste là d'où partait la manif. » Non, moi ça va, que j'ai dit, un peu abattu. Si j'avais eu un peu de compassion à ce moment-là, je l'aurais plaint, mais en lui rappelant que pour aller chez elle, il y avait les lignes de métro 1 et 14 qui sont automatiques et qui fonctionnent même en période de grève. Mais non, j'ai un cœur de pierre. Je lui ai tourné le dos et j'ai repris le chemin du labo complètement dépité en regardant mes godasses. Je repensais à ma marche chimique de la veille, parce qu'il me faut des médocs puissants pour supporter les douleurs permanentes que j'ai aux membres inférieurs. Bon, ce n'est pas la seule dans le magasin à être aussi combative. La manif du 19, je représentais 1% de l'ensemble du personnel à faire la manif. Le 31, avec Fredo, on représentait 2%. Encore 98 jours de manif et on sera peut-être 100%. Vous avez bien compris que je n'y crois pas un instant. Quand je tente d'expliquer tout l'intérêt de soutenir en présentiel le mouvement social, on me rétorque « Mais c'est votre boulot, vous les syndicats ». Ah oui, c'est vrai, je vais faire grève tout seul et manifester pour les retraites de mes collègues les plus jeunes parce que je paye une cotisation mensuelle de 1% de mon salaire. Le seul soutien moral que j'ai reçu de la direction... Le seul soutien moral que j'ai reçu, c'est de la direction. C'est vrai, me dit la directrice, c'est bien qu'il y ait du monde à la manif, faut s'inquiéter des retraites. Moi qui ai 46 ans, j'en ai encore pour 10 ans. Merde, je suis plus vieux qu'elle et je vais devoir travailler plus longtemps, jusqu'à 67. C'est un soutien bien relatif, hein, vous me direz, mais pas hostile. Contrairement à un collègue que je rencontre rarement, parce que nous ne sommes pas de la même équipe horaire, c'est pourtant simple. Plutôt que de prélever des cotisations patronales, on nous les refile. Comme ça, on est augmenté, c'est gagnant-gagnant. Ah oui, c'est intelligent surtout. Comme ça, on ne sera plus emmerdé avec le trou de la sécu, le déficit de la caisse des retraites, on devrait même fermer les hôpitaux, les écoles publiques. Comme ça, pas de dépenses. Bon, la casse du service public, c'est un peu ce qui se passe, hein. Quant aux cadres, dont un est à la maintenance électrique, toutes les excuses sont bonnes pour ne pas aller aux manifs. Si j'avais pas eu mal au bras, je serais allé à celle du 19, parce que là, c'est important. Hein. Ça tombe bien, on remet le couvert le 31, tu seras soigné d'ici là. Le temps passe. Alors le 31, tu y étais ? Hein ? Non ? Faudrait que ça tombe un samedi. Bouge pas, on fait une spéciale pour toi le samedi 11 février. Ah, mais ça tombe le jour du salon de l'automobile ancienne. Tu sais, il y a de sacrées bagnoles. Voilà, les salariés du commerce sont peu présents dans les cortèges sociaux. Vous l'aurez senti à la hauteur des réflexions de mes collègues. Mais bon, ce n'est pas non plus en collant au cul des syndicats institutionnels que vous trouverez les arguments qui vont vous faire entrevoir un autre futur. La CNT fait un point fixe avant d'emboîter le pas solidaire. Durant l'attente, vous avez tout un tas d'individus qui passent tut tut tut. Un hurluberlu de EELV passé en soufflant dans son flutio. Ça te casse les oreilles. La seule chose qui importe, c'est d'être visible. Lui, il était tout en vert, forcément, des chapeaux aux chaussettes. Vous trouverez la même stratégie parmi la CFTC. Eux, ils sont en bleu. Et c'est tout le cortège qui souffle dans un cornet. C'est un beau message de protestation. Tut, 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 tut. Le double avantage, tu marques ta présence sans lancer de message désavouant le gouvernement. En plus, tu étouffes toute autre formation syndicale de scander des messages critiques pendant ton passage. Comme ça, les adhérents ne sont pas corrompus par les autres OS qui auraient un message insurrectionnel à promouvoir, par exemple. Mais quand on se place derrière Sud, ce n'est pas mieux. C'est carrément la kermesse. C'est tout juste si Sud Santé ne nous balançait pas depuis ses enceintes puissantes du Francky Vincent. Et ça dansait, ça fait des chorégraphies, c'est la grande communion des déçus du parlementarisme, la sarabande des tolards qui serpente à travers les rues de Paris. Bon, ce n'est pas tout noir, les manifs. Je ne dis pas ça pour les Black Blocs, ils ont quand même un bon fond. Donc, les samedis, on se retrouve entre copains et copines. Dans les manifs, j'ai dit les samedis. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Dans les manifs, on se retrouve entre copains et copines. Sylvette, pour ne pas la nommer, c'est des moments agréables. Et il y a ceux que tu peux... Il y a ceux que tu peux retrouver... J'arrive même pas à me relire tellement je... Tu retrouves des poteaux que tu n'as pas revus depuis des lustres. Et puis, il y a ceux qui ne veulent pas nous retrouver. Le secrétaire Sud-Commerce, par exemple. Il traverse devant la banderole CNT. Bordel, il prend conscience à 2 mètres de nous, les gars du Cial. Il fait demi-tour, il est reparti comme il venait, comme un pingouin, la tête dans les épaules, façon Charlie Chaplin. On peut pas plaire à tout le monde. Je finirai avec un Gugus qui s'est approché de la table de presse CNT. Alors les anards, vous soutenez les révolutionnaires ukrainiens ? Oui, je n'étais pas trop sûr de moi. Combien reste-t-il d'anarchos en Ukraine depuis Makhno, me demandais-je. Vous ne soutenez pas les révolutionnaires qui se battent ? Ben, nous, on soutient la population ukrainienne, on est plutôt antimilitariste. Faudrait pas de guerre. Vous ne soutenez pas Zelensky ? Ben, pourquoi il est révolutionnaire ? Ah d'accord, en 40, hein, vous auriez laissé faire Hitler. Bon allez, va chier, ça va te détendre. Je vous donne rendez-vous à demain, chers auditeurs de Radio Libertaire, et je vous laisse sur un florilège des slogans hautement politiques, voire révolutionnaires, des camarades de la CFTC. Vous écoutez Radio Libertaire, 89.4 MHz, le monde merveilleux du travail. Et tout de suite, on va se faire une petite pause musicale. Je dis lentement, c'est pour que la technicienne puisse trouver la chanson. Elle me dit, c'est bon.
si tu t'appelles. Moi je m'en fais ma selle. Allez, souviens de toi. Qui se met dans les plaies. Avec quand tu dans la joie.
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 MHz, à l'écoute du monde merveilleux du travail, et vous venez d'entendre Soul Jazz Orchestra, un groupe canadien. Hein, ça ne s'entend pas forcément à l'écoute. Voilà. Eric nous a rejoint, on va faire une présentation. Donc Eric vient d'arriver.
Salut.
Tu ne seras pas payé, toi. On va te retirer un quart d'heure. Bah, tu as, alors, en face de toi, Jean-Michel Rodrigo.
Voilà, capitaine.
Voilà, l'auteur de un film documentaire qui s'appelle Villa El Salvador. Et y a une co-autrice, non, aussi.
Il y a une co-autrice.
Oui, parce que j'ai annoncé...
Une co-autrice. Marina Pogam. Voilà. Marina Pogam, de Brest même. Voilà. Qui est co-autrice, qui fait l'image, qui a fait sur ce film, qui a fait, et comme elle le fait souvent, et l'image et le montage. Okay. Autant dire qu'elle fait tout après.
Oui, c'est ce que je veux dire.
Elle fait le boulot. Quoi. Elle fait tout.
Et puis Jean-Manuel. Jean-Manuel Trémont.
Merci beaucoup.
Voilà.
Alors, locataire de Christiania. Non, il n'y a pas de locataire, heureusement, à Christiania. Mais enfin bon, j'y suis resté 4 ans. Et j'en ai même fait un bouquin, Récit de Christiania, disponible à l'atelier de création libertaire, et à Publico, et à Quilombo. Et j'imagine dans quelques autres librairies. Et à 4 ans, c'était bien. C'était très bien. Et je suis très déçu si tu me dis que tu n'as pas de musique danoise aujourd'hui.
Mais non, parce que c'est pas le thème.
Bon, alors
je suis plus sur Amérique du Sud, Pérou. Donc...
Oui, mais tu sais, il y a dû y avoir des Vikings au Pérou. Il y en a eu partout.
Ah, donc, Villa El Salvador, c'est. Ben, en fait, c'est pas. Je trouve que c'est pas super connu. Comme ville, mais là, j'ai regardé récemment l'article le plus récent que j'ai trouvé sur le Pérou qui cite Villa El Salvador. Ça date du 23 janvier, parce qu'il se passe pas mal de choses au Pérou en ce moment.
Beaucoup, oui.
Et il présente Villa El Salvador comme un ancien bidonville, voilà, de la banlieue de Lima. Alors, il me semble que c'est pas tout à fait juste de dire bidonville pour une ville qui s'est créée à partir de rien.
Mais c'est vrai que le mot n'est pas juste bidonville, il n'est pas juste pour tous les quartiers de Lima ou d'Arequipa ou des villes au Pérou qui ont des quartiers populaires alentour et que les médias, les classes moyennes, les classes hautes, les étrangers appellent bidonville. Et c'est par facilité de langage. Mmh. Mais les gens qui habitent là, eux ont toujours, enfin ça c'est propre au Pérou, ils ont pris pour habitude d'appeler ça un pueblo jóvenes. Des villages jeunes qui ne le sont plus puisque Villa El Salvador a 50 ans voilà et après banlieue de Lima, bah maintenant c'est vrai ça n'était pas du tout au moment de la fondation parce qu'au moment de la fondation Lima n'était pas du tout comme aujourd'hui et il y avait plus de 30 km de désert entre Villa El Salvador au moment de sa création les premières cabanes qui ont été bâties dans le désert et le premier quartier sud de Lima, il y avait 30 bornes où il n'y avait personne qui habitait. Et maintenant, il y a, je ne sais pas combien, il y a au moins 500 000, 600 000, peut-être 1 million d'habitants dans ce périmètre de 30 km. Et au tout début, à Villa El Salvador, bah, la première semaine, il y avait 1 000 personnes. Et quand on a fait le film, il y avait 500 000 personnes. Et donc c'est une, voilà, c'est une longue histoire. Et en même temps, ça va très vite. Au point de départ, ça va très vite. De 1000 à 500 000, c'est très rapide.
J'ai vu le film, ça fait plusieurs mois, mais j'ai tendance...
Tu ne l'as pas revu.
À oublier, je ne l'ai pas revu depuis.
Je blague.
Alors merci à la CNT d'avoir fait cette projection de film qui, moi, m'a fait découvrir Villa El Salvador, dont j'ignorais absolument tout.
Mais moi aussi, je l'ignorais avant de... Donc il y a un an...
De toute façon, le Pérou, c'est un pays qui est relativement... L'Amérique latine, dans son ensemble, est à l'heure actuelle très très maltraitée, à part pour 3-4 trucs un peu médiatiques, les délires de Bolsonaro... les histoires mafieuses au Mexique, etc. Alors qu'il se passe des millions de choses sur ce continent. Et alors, parmi les oubliés, les pays comme le Pérou ou la Bolivie, qui avaient du succès dans les années 70, dans les médias en Europe, c'est des gens dont on n'a rien à foutre, on n'en parle plus. Et au Pérou, dont on ne parle pas, alors franchement, Villa Salvador, c'est la dernière roue du carrosse. Alors que, tu vois, par exemple, le film que tu n'as pas revu,
juste comme ça, histoire.
C'est vraiment un film qui continue aujourd'hui encore de tourner, qui à l'université d'Istanbul, l'université d'urbanisme ou d'architecture, qui en Allemagne, enfin voilà, c'est une expérience qui en son temps a été vraiment mondialement connue, mondialement étudiée à la loupe, mondialement elle a fasciné, mondialement elle a été mal interprétée. Ou bien, enfin voilà, elle n'a pas laissé indifférent.
Bah, c'est vrai que c'est pas anodin, c'est une ville en autogestion, donc c'est pas courant.
C'est la règle absolue, je pense, pour tous les lieux honnêtement, authentiquement autogérés. De toute façon, c'est toujours extrêmement mal interprété. La même chose est arrivée à Christiania. J'ai un souvenir abominable d'une équipe du Figaro Magazine qui débarque à Christiania. Alors on me dit, Jean-Manuel, ouais, toi, t'es français, Figaro Magazine. Je lui dis, oh, boulala, bon Dieu. Je lui dis, écoutez, je vais m'occuper d'eux, je vais essayer qu'ils mentent un peu moins que la normale. Et un matin, on voit deux de mes copains qui étaient en allure de punk et qui allaient travailler à leur imprimerie autogérée collective dans Christiania. Donc le gars du Figaro Magazine prend des photos de ces deux punks qui, à 8h du matin, étaient un petit peu pas très alertes, on va dire. Et dans le Figaro Magazine, le truc qui a été publié, c'était « Nous avons réussi à photographier à la dérobée deux trafiquants de drogue se rendant au rendez-vous avec leur fournisseur. » Oui. Donc ça m'a beaucoup appris sur les médias. Je présume que pour Villa El Salvador, il y a dû y avoir des histoires analogues, très certainement.
Mais c'est surtout que, en fait, ça a été toujours lu et interprété avec des loupes qui n'étaient pas forcément les bonnes. Parce qu'en fait, je pense que l'intérêt de Villa El Salvador, et ce qui a fait son succès momentané, c'est plusieurs décennies, hein, c'est le momentané, c'est le fait que c'est ce dont on parlait dans la rencontre de l'autre jour, c'est que c'est un melting pot, c'est une rencontre de pensées et de manières d'agir différentes. Il n'y a pas quelque chose d'homogène. Là, quand tu dis, par exemple, tu dis autogestion, au point de départ, 90% de la population qui a formé ce quartier qui est devenu ville, l'a pratiqué, mais n'aurait jamais employé le mot, et je pense qu'eux-mêmes ne savaient pas que ça existait comme mot. C'est l'immense majorité des gens étaient des gens qui venaient des Andes, des hauts plateaux des Andes. Il y avait eu un tremblement de terre, il y avait des gens qui avaient fui et le tremblement de terre, et puis la sécheresse, enfin une multitude de choses. C'est une période forte d'exode rural. Ils se retrouvaient en bordure de la capitale. La capitale ne voulait pas d'eux, c'était majoritairement donc des Indiens. Lima était une ville, l'est toujours, mais à l'époque encore beaucoup plus, c'était une ville profondément raciste, blanche. On disait d'ailleurs Lima la blanche. Donc n'a pas voulu d'eux, et eux, selon les traditions andines très récentes autour des réformes agraires, etc., on veut pas toi, hop, le grand propriétaire terrien veut te foutre dehors, tu fais le contraire, c'est toi qui occupes la terre de la Senado, et tu essayes de récupérer la terre pour cultiver. Et là, ils ont fait la même chose. C'est-à-dire qu'on veut pas de nous, ils ont occupé un terrain militaire qui était en plein désert, c'était un terrain où s'entraînaient les parachutistes, et ils ont occupé le terrain. Et ils ont bataillé pendant des semaines contre la police et contre l'armée jusqu'à obtenir gain de cause. Pas l'endroit exact où ils voulaient. Ils ont été légèrement déplacés. Mais il y avait de la place pour faire vivre 1000, 2000, 3000 personnes. Au bout d'une semaine, ils étaient 100 000. Donc ça a posé quelques problèmes. Et en même temps, ça a été un élan gigantesque. C'était époustouflant, parce que ça a provoqué comme tremblement de terre social et culturel dans le pays, puisque c'était quand même si c'était à 30 bornes, c'était vraiment tout près de la capitale. Là-dedans, en dehors des 80% de la population qui venait des Andes et qui avait des habitudes, on va dire, communautaires, pas tout à fait autogestionnaires, parce que c'est communautaire très autoritaire et très démocratique aussi, c'est que on fait globalement tout ensemble, on se confronte à la réalité des choses, agricoles ou autres, ensemble, parce qu'on sait qu'on est plus fort. Mais c'est extrêmement organisé et c'est... voilà. Mais c'est fondé en même temps sur une notion d'unanimité dans la pensée, dans les décisions. Ce qui fait qu'il y a un côté... Et les gens qui venaient de la ville, il y avait plusieurs courants, eux, très politisés, mais très, très minoritaires, qui étaient majoritairement des ouvriers ou des instits ou des tout petits intellectuels militants. Et là-dedans, il y avait, on va dire, grosso modo, trois courants, puis je ne sais pas compter, pour savoir, on s'en fout d'ailleurs. Mmh. Il y avait un courant libertaire qui, à Lima, descend d'ailleurs du mouvement libertaire du début du XXe siècle, majoritairement italien, et qui était dans les chemins de fer et dans les mines. Voilà, courant libertaire, donc une nette influence libertaire. Venant du monde paysan, il y avait un courant trotskiste qui correspondrait à Krivine en France, avec un grand leader paysan très connu et très apprécié. Et puis, les cathos qui vont faire la théologie de la libération. Et chacun, ça c'est vraiment, j'en ai discuté 50 fois, chacun, ils avaient un seul point commun, un seul mot commun, communauté. Chacun, dans leur manière d'exprimer les choses, et il y a ça qui est important, il y a le fait que la majorité des gens qui se sont retrouvés là, c'est parce qu'ils avaient vraiment besoin de quelque chose, de se loger et de mettre un toit sur la tête de leur môme, de se battre pour l'éducation de leurs enfants, majoritairement ça pour les paysans. La majorité des leaders de ces familles qui constitueront bientôt le groupe de la ville, la majorité des gens étaient des gens jeunes et qui n'étaient pas encore, ça c'est mon point de vue, mais extrêmement personnel, ils n'étaient pas encore formés ou déformés par une hiérarchie quelconque. Mmh. Et donc, ils ont, les cathos, ils ont bien écouté ce que les trotskistes leur racontaient, et les maos du coin, ils ont joué le jeu, ils trouvaient ça pas mal, parce que le monde paysan, l'encerclement des villes par les campagnes, etc. Bah, bah, bah. Chacun a trouvé son histoire, chacun a construit son machin, chacun a retroussé ses manches, et finalement, ce que disent les gens qui vivent encore parmi les fondateurs, et une des grosses fiertés, c'est que à peine 2 mois après l'occupation, la première occupation, les premières bagarres avec l'armée et la police, il y avait la première école qui fonctionnait. Et que donc, c'était quand même, il y avait un sentiment profond de c'est là qu'on va faire pousser les graines qu'on a à faire pousser, c'est là que nos mômes vont grandir, et c'est là qu'ils vont avoir un regard sur le monde différent. Et entendez-le bien autour dans ce pays. Donc voilà, ça c'est... Voilà, c'est le début, le début d'une histoire longue, longue.
Au-delà de la politique, pour avoir rencontré une Péruvienne, la semaine dernière, en fait, au Vignol, elle dit qu'effectivement, il y a aussi les traditions ancestrales qui fortement inspirent la solidarité et l'entraide, en fait. Si ça participe beaucoup aussi. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, apparemment, pour les personnes qui manifestent à Lima, via El Salvador, reçoit quelques manifestants qui se font expulser, en fin de compte, enfin retirer de Lima la blanche, et qui sont recueillis là-bas, ils sont dans les centres d'accueil pour. En attendant d'y retourner.
Mais c'est d'ailleurs que c'est resté, et ça reste encore aujourd'hui, on a le temps d'en parler après, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Parce que les utopies, elles avancent, elles évoluent, et puis à force de mettre de l'eau dans ton vin, tu n'as plus de vin, comme disait mon grand-père. Tu vois, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé, et le Villa El Salvador d'aujourd'hui n'est plus ce qu'il était. Et en même temps, il y a profondément une histoire qui s'est enracinée dans la tête des gens, dans la mémoire des gens, et y compris des gens les plus jeunes et des plus jeunes générations qui ont développé une sorte de, je dirais, c'est un très mauvais mot, hein, mais un patriotisme social-culturel qui est un socle commun. Et donc, effectivement, manifestation, le Pérou est entre guillemets à feu et à sang à l'heure actuelle, parce que, indépendamment de ce qu'on pense du président qui a été mis en prison là, c'est considéré comme une attaque en règle contre le choix de la population aux élections précédentes, qui est que la majorité de la population du sud du pays, des entre guillemets bidonvilles, et du sud indien du pays, s'était choisi ce président-là, et que c'est remis en cause immédiatement. C'est-à-dire que historiquement, on continue dans le fait de la négation du point de vue des gens. Voilà. Donc, ils manifestent, ils peuvent faire des centaines de kilomètres à pied, comme ils le faisaient à l'époque. Et bien évidemment, Vielsalmer est une des principales auberges de jeunesse, entre guillemets, des gens qui ont fait plusieurs centaines de kilomètres à pied, et qui ont tous et toutes, plus ou moins d'ailleurs, qui de la famille, qui a un oncle, qui une grand-mère, qui machin, etc. Mmh. Et Vielsalmer reste un mythe. Il y a des bidonvilles qui sont des quartiers populaires de Lima, qui sont devenus des villes, des municipalités, etc., qui ont des histoires tout à fait passionnante, mais c'est toujours, c'est quand même un peu, à chaque fois un peu différent, et aucune n'a été véritablement construite et conçue de la première pierre jusqu'à aujourd'hui par les gens eux-mêmes. C'est ça qui fait le côté unique. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, quand les mecs aujourd'hui construisent une école encore aujourd'hui ou un bout d'hôpital, cette école et ce bout d'hôpital, il avait déjà été conçu en 71 sur les plans que les mecs ont établis avec, par ailleurs, un architecte urbaniste très marginal et qui avait été fasciné par les urbanistes yougoslaves et qui s'était fait la main en disant « Bon, les gars, vous inquiétez pas, je vais vous dessiner la ville, vous allez voir, c'est super. » Il a commencé à dessiner, puis les autres disaient « Non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait. Nous, on veut plutôt ça comme ci, et puis on veut plutôt ça comme ça. » Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit 1, 2, 3, 4, 5 villages, exactement comme dans les Andes, avec vraiment une structure, avec une petite placette centrale, avec les maisons autour, avec le problème de l'eau à gérer, avec les jardins à cultiver, sur les pas de porte, un jardin collectif, une école, une bibliothèque, un lieu pour les femmes pour faire la bouffe collective quand il y a besoin, etc. etc. Et ensuite, l'intelligence, là, le gars a joué un rôle important, c'était de relier tous ces quartiers les uns avec les autres pour qu'il y ait une cohérence urbaine. Parce que qu'est-ce qui fait les bidonvilles et le bordel généralisé des bidonvilles pendant des décennies? C'est que c'est un chaos de quartiers qui ne sont pas reliés les uns aux autres. Toi, t'arrives, t'as tout cassé, t'as récupéré, t'as eu raison de tout casser, de récupérer un terrain et t'as construit ta baraque. Mais là, à ce moment-là, tu réalises que t'as pas de flotte. Et puis le voisin, le petit quartier d'à côté à 80, ils ont de la flotte, mais alors ils ont pas, je sais pas, ils ont pas de terrain pour cultiver. Et puis les, etc., etc. Là non, depuis le départ, il y a une cohérence, mais c'est dessiné sur le sable du désert, comme ils disent.
Pensé, ouais.
J'aurais ajouté ça parce que tu as dit un truc très intéressant. On parlait de vieilles traditions. Quand on y réfléchit, la plupart des expériences de grande taille qui ont duré, à chaque fois, il y a une tradition derrière. Alors là, pour Villa El Salvador, c'est les traditions andines, mais pareil, le Chiapas, les traditions des gens de Chiapas, c'est aussi très communautaire depuis longtemps. Au Rojava, les Kurdes, alors les Kurdes, c'est un peu spécial, mais il y a quand même aussi des choses d'autonomie, d'indépendance dans les montagnes qui ont joué. Et sur l'exemple, évidemment, d'une échelle totalement différente de Christiania, mine de rien, on est au Danemark, c'est-à-dire dans un pays où la tradition de la réflexion en groupe, de l'action en groupe, est également extrêmement forte. Et ça se retrouve. Et il y a un autre point, j'adore écouter Jean-Michel, et j'ai adoré son film, parce que, effectivement, tout le temps, je faisais les comparaisons avec Christiania, et l'une des choses également très fortes dans ces lieux, c'est le mélange. Tu as complètement raison de dire, et pour Christiana ça a été la même chose, c'est la diversité des gens dès le départ. à Christiania, c'était pas que, mettons, des anarchistes, ou que des hippies, ou que des ceci, ou que des cela. Il y a eu vraiment des gens de tous les coins qui sont arrivés, et qui eux aussi, tout comme, à un degré moindre, bien sûr, qu'à Villa El Salvador, mais quand même, il y avait une nécessité matérielle immédiate. C'était des gens qui n'avaient pas de logement, il leur fallait un logement. À nouveau, être pauvre au Danemark, c'était pas du tout être pauvre au Pérou. N'empêche que la sensation de l'urgence était là. Et puis, j'avais oublié que le terrain de Villa El Salvador, c'était un terrain destiné aux parachutistes, parce que Christiania, c'est sur une caserne de l'armée danoise. Et là, c'est pareil, il y a des comparaisons qui sont amusantes, parce que Villa El Salvador, c'est à 30 km de Lima, Christiania, c'est au cœur de Copenhague. À nouveau, moi, la comparaison que j'utilise systématiquement pour les Français, pour faire comprendre Christiania, c'est, vous imaginez, les invalides squattés. C'est exactement la même chose. Un lieu historique en plein cœur de la ville, et tout d'un coup, c'est squatté. Et,
c'est une invitation, ça ?
c'est une excellente invitation. Alors, en même temps, il y a eu... Christiania a eu un ensemble de coups de bol pas possible. Hein. L'armée danoise qui voulait plus de ce terrain. Le gouvernement danois qui n'y faisait pas attention, qui avait strictement aucun projet sur ce terrain. Et puis, il y a eu, après... Alors, il y a eu... Là, c'est différent de Villa El Salvador, parce que Villa El Salvador, donc, tu dis, ça a explosé en quelques mois, ils se sont retrouvés à 100 000, alors que la population de Christiania, c'est un truc assez curieux. Ça s'est très vite rempli aussi. Bon, pas aussi vite que Villa El Salvador, mais une fois que ça s'est rempli, ça n'a plus bougé. C'est-à-dire qu'en gros, la population de Christiania est relativement stable. Ça fait en gros 1 000 personnes, à 200 près. En mais été, il y en a un peu plus, en hiver, il y en a un peu moins.
Était limité par les murs
qui
de la
caserne. Qui est délimité, bien entendu, par le fait que le terrain est magnifique, mais enfin, il est évidemment, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et donc, ça, c'est ça qui a limité la chose au Danemark. Mais vraiment, Christiania, il y a eu une conjonction, alors qu'à Villa El Salvador, il y a eu une grosse vague populaire derrière. Cela dit, Christiania a également pu survivre parce que, fort heureusement, il y a eu aussi une grosse vague, non pas de gens qui se sont installés à Christiania, mais il y a eu un gros soutien de la population danoise pour Christiania. Entre autres choses, parce que Christiania, c'était un gentil clown, et ils ont fait des tas de choses drôles, amusantes, poétiques, toujours tournées vers l'extérieur, et que donc Christiania, c'était quelque chose qui était sympathique dans l'esprit des gens. À nouveau, hein, c'est fascinant, moi, d'entendre tout ça sur Villa El Salvador, parce que je vois les différentes options possibles pour la réussite de ces espaces autogérés. Qu'est-ce qui fait qu'un espace autogéré, ça va fonctionner ou ça va pas fonctionner? Et puis, je pense que dans les deux cas, même s'il y a eu, je pense, pas mal de castagnes avec l'État ou la police, avec Villa El Salvador, dans les deux cas, il n'y a pas eu trop de castagnes avec l'armée et la police. À Christiania, fort heureusement, l'armée, c'était impensable qu'elle arrive et qu'elle reprenne le terrain. Et la police danoise, pas nécessairement très aimable et très gentille, puis qui peut aussi, elle aussi, avoir la matraque facile, c'est quand même pas les CRS français. C'est pas des gentils, mais c'est pas, et ça n'a rien à voir, bien entendu, avec les juntes militaires d'Amérique du Sud.
Non, mais là, en plus, il y a des hasards, enfin, pas hasards, c'est un mauvais mot, mais il y a des moments historiques entre guillemets enchantés, il y a des parenthèses enchantées, il y a des conjonctions de circonstances qui font que là ils ont fait ça, le président qui avait le pouvoir, le général, un militaire qui avait le pouvoir au Pérou à ce moment-là était un militaire qui se prétendait de gauche, qui avait une véritable sensibilité sur la question indienne et sur les questions de réforme agraire, grand admirateur de Gaulle, mais aussi de l'Union soviétique et de Cuba. Il mélangeait un peu tout ça. Donc, c'était un personnage, c'était pas n'importe quel militaire latino-américain de bande dessinée. Voilà, c'était quelqu'un qui a influencé, qui a une influence très grande, y compris sur des gens qui ont habité et dirigé Villa El Salvador. Mais il n'empêche qu'il y a eu véritablement, il y a eu de grosses bagarres. Mais là, alors je sais pas, j'étais pas là à ce moment-là, je ne sais pas qui est responsable des côtés malins, mais Villa El Salvador a toujours choisi des moments de confrontation très très durs, tu vois, 50, 60, 70 000 personnes qui marchent sur Lima, qui sont attendus de part et d'autre de la route par les gens des autres quartiers populaires qui leur filent à boire parce qu'il fait 35 degrés et que les mecs ils crèvent de chaleur, etc. Donc, développement d'un mouvement de solidarité et développement d'un mouvement de conscientisation politique dans tous les autres quartiers, très dangereux, mais choisis aussi des moments comme ça lors d'une réunion de la Banque mondiale à Lima. Et où les gars, ils n'ont pas du tout envie au niveau du gouvernement. Ils ont pas... C'est pas un gouvernement qui dit, tiens, tuez mon mille, faites-moi place nette pour qu'on puisse tenir la réunion sans qu'il y ait trop de bruit. Non, c'était un gouvernement qui ne pouvait pas se permettre, avec l'image de marque qu'il développait, il ne pouvait pas se permettre qu'il y ait la moindre erreur militaire ou policière. Donc, à chaque fois, il y a eu des histoires comme ça, parce qu'on a cru qu'ils n'allaient pas rester. Franchement, c'est le sable, vous imaginez. Ils se sont installés dans un grand bac à sable avec des cailloux. Il n'y avait pas de flotte. On s'est dit, ah, ils ne vont pas rester, il n'y a pas d'eau. Non, bah bien sûr, mais ils ont fait manifestation sur manifestation jusqu'à obtenir de l'eau. On leur a dit, oui, mais on n'a pas l'argent pour faire les canalisations, etc. On veut bien vous promettre l'eau, mais pas de problème. Et là, tu retombes sur la question de la tradition andine, etc. Quand dans les villages andins, tu dis demain matin, il y a semences des terres. Semences des champs de pommes de terre. Il faut 253 bons hommes. On a calculé, il en faut 253. Qui vient ? Poum, 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 les mecs lèvent le doigt. Le lendemain matin, ils sont 253. Et donc, tu sèmes ton champ de pommes de terre. Tu fais la même chose pour l'entretien des routes, l'entretien des ponts, l'entretien des machins, etc., etc. Donc là, la plupart des routes, des rues, des premières rues de Villers-Savoyard, elles ont été construites, immobilisées, 1000 mecs. Et ils mettaient la main, ils n'avaient pas d'argent. Le peu d'argent qu'ils avaient, c'était pour payer qui l'asphalte, qui le machin, etc. Et puis, les femmes, c'est une société très masculine et macho, même si les femmes jouent un rôle immense, mais ça ne l'aurait pas officiellement reconnu en tant que telle dans les histoires de direction. Et les femmes, à côté, elles faisaient la bouffe pour 1000 personnes, et elles faisaient la bouffe collectivement, et tout le monde mettait, etc. Et tu as d'ailleurs le droit, démocratiquement, quasiment de manière autogestionnaire, le droit de dire, bah non, tiens, je travaille pas. De toute façon, je suis fatigué, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes, puis j'ai pas envie de travailler, moi, dimanche, j'y vais pas. Pas de problème. Ou la femme dit, j'ai pas envie de faire la cuisine. Pas de problème. Tu payes ta quote part à la place. Et donc, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus cher et dur. Vaut mieux. Donc, tout le monde, tout le monde retrousse les manches et tout le monde construit. Et donc, personne ne s'attendait à ce que ce soit construit aussi vite, et aussi intelligemment, de manière austère. D'aucuns disent, il y a eu vraiment les premiers plans étaient quand même des plans assez staliniens, au carré, tu vois, ou états-uniens, les villes des déserts américains, c'est proche, en fait. Les grandes rues, les petites rues comme ça, c'est au carré, au rectangle, etc. C'était comme ça au début. Mais immédiatement, ils ont pensé, puisque paysans, ils ont pensé, où est-ce qu'on met les jardins? Et où est-ce qu'on met les arbres pour l'ombre? Parce qu'ici, il fait vachement chaud. Nous, on vient de régions de 2005 à 4000 mètres d'altitude, on n'a pas chaud du tout. Ici, on crève de chaleur. Donc, où est-ce qu'on met les arbres pour faire de l'ombre? Ben là, pareil. Hein. Ils ont planté des millions d'arbres dans le désert pour faire de l'ombre. Mais comment ils ont réussi à faire ça? Eh ben, parce qu'il y a eu un gars malin qui était lié d'ailleurs avec la France, avec une ville, Rozelle, les Nantes, enfin, peu importe, je ne me souviens même plus les détails, mais ils ont commencé à mettre en place un système de décantation des eaux usées pour commencer à mettre en place les champs, les jardins, et surtout les arbres, à planter les arbres. Et pourquoi je dis les champs, c'est parce qu'au début, les gars n'avaient pas conscience de ça, puis il y a un malin quand même qui est venu aussi, qui a dit, non, bah, c'est pas pour là, vous ne faites pas pousser du maïs avec des eaux usées, qui voilà. Donc tu vois, à chaque fois, c'est... je ne sais même plus pourquoi je vous disais ça.
Je peux dire deux petites choses, hein, parce que il parlait des rues tracées au cordeau. Là, c'est le guide touristique qui va ajouter son truc. Les rues tracées au cordeau, ça vient de Versailles. C'est quand Louis XIV veut construire Versailles, eh bien, il exige des... Enfin, Mansart, Gelardin Mansart et le nôtre, lui font des avenues tracées au cordeau. Ça épate tout le monde. Pierre L'Enfant, architecte de Washington, était né à Versailles. Donc, il trace Washington, pareil, avec des rues orthogonales. Et broup, c'est parti comme ça. Donc, ça vient principalement de là.
Personnellement, je préfère les petites rues tortueuses de Tolède, de Grenade ou de Séville.
Nous sommes d'accord, nous allons
cette
avoir.
Cette influence-là aurait été quand même plus
importante. Voilà, nous allons avoir exactement le même goût là-dessus.
Alors, avant de faire une petite pause musicale, oui, effectivement, Via El Salvador est jumelé avec Rosé.
Rosé, oui.
avisar un presentimiento te trajo hasta mí. Tan solo un día más quiero despertar sintiendo que nuestra historia ha vuelto a empezar. Siempre pusiste tu fe en mí. Yo sé que aún puedo llegar a tiempo a tu corazón. Mi cómplice, amiga, mi eterno amor. Nunca te pude decir que iría hasta el fin por ti.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 MHz, à l'écoute du monde merveilleux du travail. Et vous venez d'entendre Revlin Project. C'est un groupe péruvien. Voilà. Ça date de... Ouais, bon, c'est une musique un peu sirupeuse. Nous, dans le studio, on n'a pas trop entendu, parce que ça jacte tout, et on va vous dire de quoi on a
jacté. Il y avait une bonne discussion, parce que Jean-Michel, il a rappelé que... Bon, c'est pareil, il a Alzheimer.
C'est ça.
On discutait de la manière dont les décisions sont prises, que ce soit à Villa Salvador ou que ce soit à Christiania. Et en écoutant Jean-Michel, je me suis rendu compte que c'est exactement la même chose dans les deux lieux et que c'est une grande raison du succès, et surtout du succès durable de la chose. Alors, comment est-ce que ça se passe? Ben, c'est très simple. On jacte. On parle. On écoute tout le monde. Tout le monde peut dire ce qu'il y a à dire. Alors moi, je sais que à Christiania, il y avait aussi des gens dont on savait qu'ils parlaient pour ne rien dire. Donc on les laissait un peu parler, puis au bout d'un moment, quand vraiment ils cassaient les schpoons à tout le monde, on leur disait « bon bah tu peux te rasseoir ». Mais sans ça, on écoutait tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? D'autant plus que, tout comme à Villa Salvador ou à Christiania, à nouveau, les gens venaient d'horizons différents. Donc il y avait des perceptions différentes, donc surtout il y avait des compréhensions différentes, des hypothèses différentes, donc on pouvait analyser tous les points de vue, toutes les possibilités. Donc on parle. Et puis à un moment, comme on a beaucoup parlé, on a vraiment bien réfléchi et on tombe sur la bonne solution. On a soif aussi, celle qui satisfait tout le monde. Et donc, Jean-Michel disait, la culture de la décision à Villa Salvador, c'est l'unanimité. Et à Christiania, c'était pareil. C'était le consensus. Alors, l'unanimité sur 1000 personnes, il y en a 10, 20, bon. Mais dans les tout petits meetings, les meetings de maison, dans les moyens meetings, les meetings de quartier, puis dans les grandes assemblées générales de Christiania, c'était toujours ça. Il venait un moment où, en gros, il n'y avait plus personne qui protestait parce que tout le monde venait de comprendre que, ah oui, là, pile poil, cette décision-là, dans ces termes-là, ça convient à tout le monde. Et le grand avantage, la grande supériorité de ces décisions-là, c'est qu'elles sont hyper durables. À Christiania, il y a 10 règles officielles, pas plus. Seulement, ces 10 règles, ça fait, ça fait 40 ans qu'elles sont là et elles tiennent le coup parce que tout le monde comprend leur utilité. Alors, quand je dis des règles, c'est très simple, pas de voiture. Alors, une ambulance, oui, mais sans ça, pas de voiture. Ben, mine de rien, on s'aperçoit que pas de voiture, c'est une bonne règle. Donc, tout le monde est d'accord là-dessus. De même, pas d'armes à feu. Oui, c'est bien comme règle, pas d'armes à feu. Pas de drogue dure. Hein. Quand on dit drogue dure, c'est héroïne, cocaïne, etc. Bon, c'est pareil, c'est des règles sur lesquelles tout le monde se met d'accord. Et jour après jour, les gens constatent, ah oui, c'est des bonnes règles. De même, quand tu dis pour Villa Salvador que, par exemple, comme c'était un désert et que les gens venaient des Andes, des montagnes où ils vivaient à 2000 mètres d'altitude, où ils se les pelaient, qui descendaient dans un désert où ils crevaient de chaleur, donc qu'est-ce qu'ils ont décidé? On met des arbres partout. Ben oui, mais c'est une super règle, mettre des arbres partout. Qui va être contre le fait de mettre des arbres partout? Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose dont tous les mouvements libertaires, autogérés, anarchistes, tout ce qu'on veut, devraient s'inspirer. Il vaut mieux passer beaucoup de temps à parler les uns les unes avec les autres, et puis au bout d'un moment, on tombe sur la bonne solution. Il faut un peu de patience, mais l'avantage, c'est que si on a eu de la patience, ce qu'on a décidé, c'est la bonne décision, et c'est la bonne décision durable.
J'espère qu'Elisabeth Borne écoute cette émission.
Madame Borne, nous aurions quelques conseils à vous procurer, comme par exemple, écoutez les paroles du peuple.
Pardon.
T'imites bien.
Vraiment.
Non, mais je crois aussi, c'est que qu'est-ce qui sous-tend cette manière de fonctionner? C'est vrai dans plein de domaines, dans le monde andin, mais je dirais plus généralement, tu retrouves ça en Amérique centrale, dans les cultures amérindiennes d'Amérique centrale, et tu retrouves ça dans le Nord, au Canada, aux États-Unis, etc. C'est qu'à un moment donné, c'est pas seulement trouver la bonne formule, parce qu'il y a toujours plusieurs bonnes formules. Bon, c'est pas seulement ça. C'est aussi, à un moment donné, c'est chercher le consensus pour ne pas se retrouver demain dans une situation où moi je suis majoritaire à 52, mais que j'ai 48 contre moi. Absolument. Qui sont obligés de se soumettre à ma règle, alors que fondamentalement ils sont contre. Ça marche pas. Donc, il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans la rencontre. Et à un moment donné, quand on a pris la décision, là, d'ailleurs, ce sont des fonctionnements qui sont très autoritaires. On m'a élu, c'est moi le chef du quartier Z de Villa-El-Salvador. On m'a élu pour un an, voilà, pour 6 mois, pour 3 mois, parce que je peux être révoqué d'ailleurs, mais voilà, si j'ai fait le con. Mais quand, si je suis élu, la communauté a accordé sa confiance en ma direction, et moi, quand je dis quelque chose, c'est même maintenant, désormais, pour le temps de mon mandat, c'est très autoritaire. C'est très autoritaire. On ne fait plus de salamalek, on ne fait plus de micmac pendant des semaines après la décision prise. Une fois la décision prise, on a dit, on va dans cette direction-là, la route, elle a besoin de 1000 mecs, et elle a besoin de 1 million de pesos pour payer l'asphalte. Alors, c'est fini, on discute plus. On a discuté en amont. Et ça, je crois que c'est vachement important, cette notion de se dire, c'est vrai parce que t'as 3 voix de plus que l'autre, que c'est t'as gagné et que c'est toi qui va nous diriger, parce que t'as pu nous pipoter pour avoir 51 au lieu de 49. On connaît par cœur ces histoires-là. Donc voilà, c'est très important dans le fonctionnement. Alors après, je pense qu'il faut aussi toujours relativiser. Enfin, je connais pas par chez toi là-bas dans le Nord. Moi, il faut relativiser, même dans les premiers jours de Villa-El-Salvador. C'est pas un monde de bisounours, hein. Il n'y a aucune perfection. Il y avait des abrutis là-dedans. Il y avait des gens pas tant que ça. Il n'y avait pas spécialement d'arrivée. Mais il y avait des gens qui auraient bien aimé avoir un peu plus de pouvoir. Enfin, voilà, on est dans une vraie société humaine avec toutes les contradictions qu'il y a. C'est, voilà, moi je dis pas, ça a été le paradis dès le troisième jour et au septième jour, là, tu vois.
Voilà. Là-dessus, c'est pareil, c'est intéressant de comparer avec Christiania. La chose en commun, c'est qu'effectivement, il était inconcevable d'avoir ce qu'on appelle en danois « en flertel-diktatur », donc la dictature de la majorité. Parce qu'effectivement, c'est complètement con, cette idée que s'il y a 51%, ben, les 49% doivent claquer des talons et saluer. Donc ça, c'est un danger qui a été compris dès le départ de Christiania. Mais dès les premiers jours, il n'y avait strictement aucun doute, il était hors de question de fonctionner comme ça. Une différence, en revanche, entre El Salvador, enfin Villa El Salvador et Christiania, c'est que la différence de... entre autres choses, la différence de taille, et puis je dirais peut-être la différence de connaissances historiques, ont fait qu'il y a... Quand je dis il n'y a jamais eu de chef à Christiania, il n'y a vraiment jamais, jamais eu de chef à Christiania, à quelque niveau que ce soit. C'est-à-dire que, déjà, pour Christiania, en tant qu'entité globale, il n'y a jamais eu de chef. Il n'y a jamais eu de mandat révocable ou pas révocable. Point. À l'intérieur de Christiania, ça n'existe pas. Il y a des trésorières et des trésoriers, par exemple, qui s'occupent de la caisse commune de Christiania, qui rendent des comptes très régulièrement. Il n'y a jamais de secret. On peut toujours aller les voir. Il y a dire, aujourd'hui, le 24 janvier, machin chose, combien il y a dans la caisse. Mais sorti de là, donc il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef non plus dans les petites structures. Donc dans la entre 60 et 80 collectifs de travail à Christiania, il n'y a jamais de chef. Alors sauf qu'il y a eu quelques gars qui ont décidé de faire des entreprises complètement capitalistes normales avec un patron et des employés. C'est quelque chose qui est arrivé relativement tard. Fort heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et dans tous les autres collectifs, les décisions sont toujours à nouveau. Il y a une assemblée hebdomadaire du collectif et c'est là que se prennent la totalité des décisions. Éventuellement, il y a quelqu'un qui est plus expérimenté que les autres, dont on écoute plus la vie parce que c'est quelqu'un qui connaît super bien ce métier, cette activité. Mais les décisions restent des décisions au consensus. Bien entendu, et c'est là, c'est intéressant de se poser la question, Christiania, c'est 1000 personnes, Villa El Salvador, c'est 400 000 personnes, si bien maintenant encore plus. Et pareil, ça serait intéressant de voir comment ça se passe au Rojava, comment ça se passe au Chiapas. Mais, à mon avis, l'histoire, le principe de subsidiarité, hein, les décisions sont prises par ceux qu'elles concernent, c'est vraiment quelque chose qui, concrètement, peut-être constamment appliqué. Et ce que tu dis là, par exemple, du gars qui était, enfin du gars, j'espère, de la nénette de temps en temps, qui est élu pour 6 mois, pour un an, on sait évidemment que c'est toujours extrêmement dangereux, mais on sait que ça peut fonctionner si la personne est relativement facilement révocable. Donc ça, c'est vraiment un problème à voir. En tout cas, pour l'expérience de Christiania, à nouveau, en 50 ans, jamais. Il y a eu quelques personnes qui ont Alors, il y a eu un gars qui n'était pas du tout un mégalo, qui ne voulait pas du tout prendre le pouvoir, mais qui s'occupait vraiment beaucoup des relations de Christiane avec l'extérieur, et qui, à un moment, a été vu par l'extérieur comme quelqu'un qui avait du pouvoir. Pas par les christianites, même par l'extérieur. Et c'est là que les christianites, qui trouvaient qu'il avait fait un boulot super, lui ont dit « Ok, t'arrêtes. Mais pourquoi j'arrête ?» Oui, parce que les autres te prennent pour notre chef. Et lui, il a compris, et donc il a dit « Bon, ok, terminé, je ne suis plus là parce que pour faire comprendre à l'extérieur, non, à Christiania, il n'y a pas de chef. » Et ça a été une des astuces de survie de Christiania. Quand le gouvernement danois ou la municipalité de Copenhague voulait imposer un truc à Christiania, ben, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous demandez à parler au chef. Ben oui, mais il n'y en a pas. Alors Christiania, pendant longtemps, a fait des groupes de délégués, des comités de contact, mais qui n'ont jamais, à aucun moment, pu prendre une décision pour Christiania.
Ah, effectivement, nous, on n'est pas pour les chefs non plus. J'ai pas pris ce que disait Jean-Michel, même s'ils ont élu quelqu'un, j'ai pas pris comme un chef, plutôt comme un conducteur de travaux, tu vois, plus du... C'est pas quelqu'un qui prend des décisions, puisque de toute façon, il fait appliquer des décisions qui ont été prises en amont. Donc c'est pas vraiment un chef, c'est quelqu'un qui va...
Qui fait appliquer. En fait, ouais. Je crois qu'on pourra rajouter là-dessus. C'est important. C'est très dur à transposer d'ailleurs, voire intransposable, dans le sens où c'est vraiment une histoire de tradition et une tradition millénaire qui a survécu. C'est des traditions qui ont survécu, qui remontent à des périodes pré-incaïques, qui ont survécu à l'Empire Inca, qui ont survécu à la colonisation espagnole. À la colonisation, puis à la domination espagnole, jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, dans ces manières traditionnelles, il y a des ethnologues, ou anthropologues, ou sociologues, ou je ne sais pas quoi, péruviens, qui appellent ça le communisme primitif des Andes. En fait, être chef, ce n'est pas un truc que tu souhaites. Tu sais, une fois que tu es chef, tu penses qu'il y a une seule chose, c'est de te tirer, parce que putain, qu'est-ce que c'est chiant d'être chef. Qu'est-ce que c'est lourd d'être chef. Et qu'est-ce que tu as comme pression par rapport... Parce que tu es responsable devant les autres d'assumer pleinement ton mandat et de le faire le mieux possible. Mmh. Et tu vas t'en prendre plein les dents et tu vas être épuisé. Donc, tu cherches pas ni à accumuler, bien évidemment, ni à multiplier les mandats. Tu es très content quand tu passes le relais. Voilà, ça, je pense que c'est un élément très important parce que, justement, les autres... n'avaient pas spécialement cette culture-là, les Mao, les machins, les syndicalistes, ils n'avaient pas cette culture-là. Eh ben, ils s'y sont plutôt pas mal faits, parce qu'ils se sont rendus compte que quand il faut vraiment aller au charbon, et que t'es pas en train de rigoler parce que t'es un élu qui t'est mis à l'écart des choses, quand tu te retrousses les manches, t'aimes bien que ça tourne, t'aimes que ça tourne et qu'il n'y a pas que toi.
Alors là-dessus, il y a un exemple historique complètement inattendu, mais qui est marrant. Je viens donc de passer 2 mois à Venise. Donc, j'ai pas mal étudié l'histoire vénitienne. Et Venise, c'est un drôle d'exemple. C'est une drôle de structure politique parce que Venise, alors du point de vue des pauvres, des exploités, c'est un empire commercial dégueulasse comme ils ont tous été. Mais du point de vue de l'aristocratie vénitienne, c'est démocratie, ou en tout cas, ça a été une structure égalitaire. J'entends bien, à l'intérieur de la noblesse vénitienne. Mais comment est-ce qu'on fait les Vénitiens pour rester, donc, égalitaire, entre guillemets, à nouveau entre les nobles, pour quasiment 1000 ans. Parce que le premier doge de Venise, c'est 697. Napoléon détruisant l'indépendance de Venise, c'est 1797. Donc c'est 1000 ans. Alors, quelle a été l'une des très grandes astuces géniales des Vénitiens pour faire en sorte qu'il n'y ait jamais de dynastie dominante, qu'il n'y ait pas de roi, qu'il n'y ait pas d'empereur, qu'il n'y ait pas un mec ou un clan qui prenne le pouvoir? Exactement ce que Jean-Michel vient de dire. C'est que devenir doge à Venise, oh, quel honneur! Ah oui, mais d'abord, le doge ne pouvait pas quitter Venise. Le doge ne pouvait rencontrer personne sans qu'il y ait 2 conseillers entre guillemets, en fait c'était des surveillants, qui étaient présents dans la salle. Le doge ne pouvait ouvrir aucune lettre que les 10 surveillants n'ouvraient eux aussi et ne lisaient eux aussi. Et surtout, on exigeait du doge ou des autres magistrats que le doge donne des banquets très réguliers. Non mais des banquets... à la population. On entend 50 000 personnes, 100 000 personnes. Devenir doge de Venise, ça coûtait la peau du cul. Donc ça avait deux avantages. Effectivement, ça limitait quand même considérablement les ambitions, parce que, oula ! Alors, il y avait le petit côté désagréable que, fatalement, donc ça pouvait être que les très riches qui devenaient doges, hein, parce que les autres, on savait qu'ils n'auraient pas pu payer. Mais quand même, ça permettait de dire que les familles ne voulaient quand même pas rester doges trop longtemps, parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Et ça, je pense, c'est quelque chose... Si jamais une société autogérée se dit, bon, on va quand même donner des responsabilités, et donc un certain pouvoir à telle ou telle personne, il faut effectivement faire en sorte que ça coûte. Alors que ça coûte de l'argent, que ça coûte de l'effort, que ça coûte du temps, que ça coûte du risque, que ça coûte tout ce qu'on... Mais il faut faire en sorte que ça soit pas très rigolo d'être dans une position de pouvoir, de façon à ce qu'on ne veuille effectivement pas la conserver. Et ça, c'est une leçon très paradoxale, mais très précieuse, de cette histoire étrange de Venise.
Mais ça, ça a été entendu par les Occidentaux, hein, qui font l'inverse. Hein. Ils prennent un mandat et puis ils nous pompent tout le fric. C'est nous qui payons les banquets.
Et complètement, exactement. Hein, mais ça, franchement, et les Vénitiens en sont très très conscients. C'était quelque chose qui était complètement explicite. Il s'agissait de faire en sorte que, alors également incidemment, les Vénitiens, les élections du doge, c'est que le doge était élu. Vous savez combien il y avait de phases différentes? Il y avait neuf, soit scrutin, soit tirage au sort. Alors, il y avait au départ un scrutin, puis du scrutin il y avait un tirage au sort, du tirage au sort il y avait un scrutin, après le scrutin il y avait un tirage au sort. Neuf trucs pour éviter effectivement les histoires de clans, etc. Et de fait, il y a ce truc extraordinaire, c'est que ça a marché. Fabrice, tu connais toi un nom de doge, un grand doge qui aurait dirigé Venise, un Pierre le Grand ou un Louis XIV de Venise? Rien, t'as pas un nom, parce qu'il n'y en a jamais eu. Donc ça, c'est également un truc dont il faut se souvenir. Si on dit que telle ou telle personne va diriger d'une manière ou d'une autre quelque chose, il faut que ça soit un peu amer. Hein. Il ne faut pas mettre trop de sucre dans le truc. Il faut que tu aies envie de recracher ton poste à responsabilité relativement rapidement.
Alors, grosse différence quand même, hein. je fais exprès. Hein. Grosse différence entre les doges de Venise... Et Vielsa.
Ouais, j'espère qu'il y a des différences.
Mais je blague. Mais en fait, c'était aussi. J'ai juste évoqué tout à l'heure. C'est une société, la société andine, qui est en plein mouvement, en pleine transformation. C'est au moment des années 70 de la création de Vielsa, etc. C'est une société dont la force principale, c'est d'avoir survécu alors qu'elle était normalement condamnée à l'extermination historique. Et donc. Elle a survécu, et dans cette survivance, elle a aussi réussi à surmonter, toujours pas bisounours, hein, mais elle a réussi à surmonter la difficulté, des divisions et des conflits inhérents au monde rural quand il n'y a pas assez pour le nombre. Je pense que si je m'explique bien,
si.
Quand il n'y a pas assez, il n'y a pas assez de femmes, il n'y a pas assez de chevaux, il n'y a pas assez de blé.
Le problème de la véritable rareté.
Tu te fous sur la gueule pour piquer la femme, pour piquer le blé, pour piquer la pomme de terre, etc. Comment tu fais quand les Espagnols, d'ailleurs, ne demandent que ça, que tu t'entretues comme ça, c'est eux, les Espagnols, ça arrive vite de monter dans les montagnes pour exterminer les survivants de la conquête. Et en fait, pendant des siècles, il y a eu tout ça, il y a eu cette capacité progressive d'inventer tous les stratagèmes possibles et imaginables pour survivre alors que nous sommes condamnés. Et là, en plus, on descend à la ville, là où il y a les descendants des Espagnols, ceux qui ont voulu nous tuer depuis 5 siècles. Et comment on va faire? Et je pense que tout ça, alors je dis pas du tout que dans les réunions, les premières réunions de fondation de Villa El Salvador, les gars ont dit nous sommes les descendants des survivants de machin, etc. Et nous allons leur faire la nique et leur montrer qu'on est vachement malin parce que des sociologues ont parlé comme ça de nous. Et bah, pas du tout comme ça, la vie elle est pas comme ça. Mais il n'empêche que il y a des forces comme ça qui sont liées à l'histoire et à la survivance. Ce sont des peuples qui auraient dû disparaître. Mais on va retrouver ça en Amérique du Nord à l'heure actuelle. Enfin, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Mais les Indiens les Amérindiens qui étaient voués à la disparition au Canada et aux États-Unis, malheureusement pour les autres, ils ont refait les enfants, ils sont à nouveau des millions, ils sont dans la revendication, et leur revendication, elle est énormément fondée sur des histoires de culture collective, de relation à la nature, de relation à l'exploitation du sol, de la terre, où ils montrent que finalement aujourd'hui, ils tentent de montrer aux autres États-Unis que finalement ça aurait été bien de les écouter un peu plus. Mmh. Bon, et il y a vachement de ça au Pérou, en Bolivie, en Équateur, au sud du Chili, etc. Cette dimension-là est très forte. Et presque une autre discussion, mais elle a été très forte aussi dans toute la complexité dans le monde, dans le Pérou de cette époque-là, de la gestion, du savoir gérer et ne pas savoir gérer la question du sentier lumineux. Qui a été une guérilla très, très particulière par rapport aux autres guérillas colombiennes, centro-américaines, etc. Et c'était vraiment une guérilla maoïste ultra dogmatique et qui avait une intelligence redoutable qui était que elle n'était pas du tout sur le registre du monde amérindien et sur le monde des traditions andines, etc. C'est pas du tout son histoire. Mais un nombre certain de ses dirigeants faisait partie des gens au Pérou qui comprenaient le mieux ce monde-là, et ils ont su se comporter, s'adapter. Alors après, ils ont fait plein de conneries, hein, mais ils ont su se comporter, s'adapter pour, entre guillemets, infiltrer cet univers-là, alors que les autres en face comprenaient pas grand-chose. Particularité de El Salvador, comme c'est un endroit où, à une échelle des temps modernes, à une échelle du monde urbain, là, des gens qui venaient du monde andin construisent une ville, et là, ils se confrontent à d'autres cultures, dont la culture ouvrière, syndicale, etc. Le sentier lumineux débarque, et à Villasador, ils sont capables d'affronter ça. Pas de la même manière du tout que dans les villages andins, où la discussion, elle se situe sur, beaucoup plus sur, ah non, tu m'enlèves pas mon fils pour la guérilla, parce que là, on fait la récolte de patates. Ce qui est vrai, c'est concret. Hein. Il y a eu des oppositions de villages avec le sentier, parce que les mecs, ils faisaient du recrutement quasi forcé au moment des récoltes. Pas jouable. Le village, il est capable de vouloir tuer tout le monde du sentier lumineux et de se faire tuer. Mais on sauve la récolte de patates. Bon, au Pérou, à Villa, on est complètement dans une autre histoire. Le sentier lumineux était très malin et a eu une politique. Ça serait aussi trop long à discuter, mais sur le rapport à la femme. Le rôle de la femme dans la société, etc., dans un pays extrêmement macho, dans un pays créole de culture hispanique ultra-machiste, voilà. Et à Villa El Salvador, il y a eu des expériences sur les organisations des femmes. Alors, c'est pas du tout unique à Villa El Salvador, mais c'était vraiment la colonne vertébrale avec des ramifications partout dans les quartiers populaires de Lima. À son temps le plus fort, la Fédération des femmes de Villa El Salvador, qui était dirigée par une fille, une femme extraordinaire, elles étaient 35 000. Il y avait 35 000 femmes organisées. Il y a eu la famine, il y avait 2000% d'inflation, il n'y avait plus rien à bouffer, etc. Il y a 500, il y a eu 800 cuisines collectives qui se sont créées en deux temps, trois mouvements. Il fallait trouver du ravitaillement. Ils ont été chercher les camions, retaper les camions, etc. Ils sont partis dans les Andes négocier avec des gens comme eux. Bon, capacité de négociation sur la patate et ne pas jouer à la spéculation, etc. C'est, voilà, c'est... là aussi, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, mais... Je pars vite en vrille.
Mais tu parlais des femmes. Est-ce que je peux là dire quelque chose? Alors, c'est pas sur Christiania, mais sur le Rojava. Là aussi, oui. Voilà une expérience extraordinaire où, alors là, dans le genre culture machiste, le Proche-Orient, on fait difficilement pire. Et.
On peut toujours faire pire.
On peut toujours faire pire, malheureusement, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qui se passe avec le Rojava? C'est que le PKK, donc le parti. Alors la colonne vertébrale aussi, tout ça, qui a fait son virage au bon moment et qui a fait un double virage. C'est-à-dire, ils ont arrêté d'être un parti stalinien. Ils étaient un parti réellement stalinien.
C'était le cousin germain du sentier lumineux.
Mais il y avait des portraits de Staline. Et donc, chose extraordinaire, ils comprennent qu'être un parti stalinien, ils vont dans le mur. Et en même temps, alors à la fois, c'est à la fois cause et conséquence, ils disent, mais on ne peut pas libérer, on ne peut pas prétendre libérer l'humanité et puis garder la moitié de l'humanité en esclavage. Donc il s'agit maintenant de parler aussi de libération des femmes. Et là, pareil, à la fois cause et conséquence, au même moment, les dites femmes kurdes dans le Rojava se disent, mais maintenant, désolé, la libération, c'est aussi pour nous. Et là, c'est pareil, au Rojava, c'est absolument incroyable. Dans cette culture qui reste une culture à beaucoup de points de vue machiste, les droits des femmes ont explosé. Alors là, je rappelle ceci. Donc moi, j'y suis allé en 2019. Et quand j'allais dans les maisons des gens, eh ben, nous les hommes, hein, j'y suis allé avec un pote, on était donc deux mecs, nous les hommes, on était servis assis par les femmes debout. N'empêche qu'en même temps, c'est une culture où si maintenant un papa veut vendre sa fille pour une certaine somme d'argent en mariage, si un mari bat sa femme, eh bien, la femme va à la maison des femmes, se plaint, les femmes convoquent le mari, si le mari veut pas venir, débarquent 20 nénettes avec des calaches. Des calaches chargées, des nénettes, des guerrières qui ont tué des guerriers au Daesh, qui savent tirer, et qui entourent le type et qui lui disent « Non, maintenant on arrête ». Et là-dessus, je pense que, pareil, on le sait maintenant, mais ça se confirme justement par toutes ces expériences, on ne fait pas ces révolutions-là si on ne les fait pas en même temps pour, par, avec les femmes. Alors à Christiania, le problème se posait infiniment moins, parce que la société danoise était déjà infiniment moins macho et patriarcale que la plupart des autres sociétés. À Christiania, le vrai problème des femmes, c'est extrêmement simple. Il y en a, elles ont toujours été seulement un tiers. Personne ne l'a voulu, il n'y a rien qui puisse l'expliquer. Depuis le début, il y a en gros, il y a deux mecs pour une femme. Alors, évidemment, moi, je ne suis pas une femme, mais j'ai quand même parlé avec plein de femmes de Christiania. Franchement, quand on parle avec des femmes kurdes ou quand on parle avec des femmes de Christiania, on n'entend pas du tout la même chose. Et à Christiania, moi, pour le peu que j'ai pu en comprendre et en voir, je parle danois quand même, hein, les femmes étaient sur un statut totalement égal avec tout le monde. Et souvent, enfin, la question ne se posait pas. Je dirais que par rapport à beaucoup d'autres univers, la question ne se posait pas. C'était un truc de départ que les femmes et les hommes, c'est strictement égal. Bon, une femme enceinte, c'est un peu particulier, mais sortie de là, les femmes étaient les égales. Je crois que c'est vraiment important de... Et c'est pareil pour le Chiapas. Le Chiapas, ils ont compris très très vite que si on ne faisait pas la révolution avec, par et pour les femmes, ben, on allait nulle part.
Mais quand on décide ensemble, forcément, tu fais forcément participer les hommes et les femmes. Et donc, à partir de là, ben, tu sais qu'il faut laisser une certaine liberté. Et je pense que les femmes aussi ont pris conscience de ce qu'elles représentaient. Et que ce soit à Via El Salvador, au Pérou, au Danemark, à Christiania, au Rojava. Et c'est aussi des femmes fortes, en fait. Et des femmes qui ne sont pas, même s'ils sont dans une société machiste, c'est pas des femmes qui veulent spécialement rester dominées.
Complètement.
Les sociétés où les femmes ne bougent pas, hein, tu peux leur laisser la liberté.
Sur le Pérou, mais il n'y a pas que le Pérou, hein, la Bolivie, quoi, ça me paraît, parce que c'était vraiment des sociétés qui étaient très macho, déjà de manière traditionnelle, et qui a été renforcé par le machisme légendaire de la culture espagnole. C'est pas si vieux que ça qu'elle secoue le joug, on va dire, de manière massive. Il y a toujours eu des féministes, il y a eu des féministes incroyables au Pérou et au début du XXe siècle, il y a eu des intellectuels, il y a eu des militantes ouvrières, etc. Donc voilà, européennes d'ailleurs, européennes, italiennes, espagnoles, libertaires, machin, etc. Mais dans les campagnes, il n'y en avait pas beaucoup, hein. C'est pas lourd. Mais je crois que ce qui a fait la bascule, d'ailleurs, c'est le mouvement vers la ville. Le mouvement vers la ville, les années 70, l'exode rural, la crise économique qui vient 15 ans après, qui fait que tout d'un coup, les gars, du jour au lendemain, ils ont plus de taf. Donc c'est des chômeurs. Donc les mecs, ils sont dehors et ils se demandent ce qu'ils vont faire. Comme ils sont pas encore bien sûrs d'être capables de faire la révolution, je plaisante, mais pas loin que je plaisante pas, ils boivent des coups, ils ont même pas le pognon pour payer les coups à boire, etc. Et les femmes, elles sont quoi? C'est elles les nourricières. C'est elles qui inventent rien d'ailleurs, récupèrent la tradition andine de la gamelle collective dans laquelle on met le peu qu'il y a, mais on met, et finalement ça finit par faire la tambouille, et on nourrit les femmes et les enfants, et puis les mecs, quand ils ont terminé leur bière, on leur donne un peu de soupe aussi pour qu'ils débourrent. Voilà. Et donc là, à un moment donné, ça leur donne un rôle particulier, majeur, etc. Mais à ça, faut rajouter aussi, à l'époque, c'est, à mon avis, c'est des grosses différences avec Christiane, je sais pas quoi, c'est l'histoire de l'éducation. C'est-à-dire que Villa El Salvador naît avec 80% de gens qui sont des analphabètes. Analphabètes, illettrés totalement, pas du tout acculturés. Ça, c'est, on ne mélangeons pas les notions. Des gens avec une grande culture, une culture historique, une culture, voilà. Mais totalement illettrés, c'est ça. Et la bataille centrale pour les écoles, et c'est là que naît. C'est de là que naît d'ailleurs l'histoire de communauté urbaine autogestionnaire de Villa El Salvador. C'est qu'ils arrivent à arracher du gouvernement X salaires. Je ne me souviens plus pour combien c'est. C'est pour 5 instituts, mais il en faut déjà 15. Mais ça, c'est, dès les premiers mois. Et là, ils font un pot commun et ils disent, voilà, on prend les 5 salaires ou les 7 salaires que donne le gouvernement, on les met dans le pot, on se répartit et on bosse déjà à 15. Et hop, immédiatement, il y a 15 qui bossent. Et après, on va créer le syndicat et on va les revendiquer 20, 25, 30, 50 instituts l'année suivante. Ou, résultat, 50 ans après, Villa El Salvador peut s'enorgueillir d'être la ville du Pérou où le taux d'analphabétisme est le plus faible. Et je crois que quand des fois on me dit « Ah ouais, mais l'utopie d'abord est terminée », ça a semé des graines dans un nombre incroyable de lieux. Il y a des gens partout dans le monde qui sont nés à Villa El Salvador, qui sont fils et maintenant plutôt petits-fils ou filles de gens qui étaient illettrés, qui parlaient quechua et encore le quechua de telle région, etc., qui bien évidemment jamais ouvert un bouquin. Et c'est des gens qui font qui du théâtre, qui du cinéma, qui de la littérature, toujours d'ailleurs intégrés à une structure de contestation sociale. Voilà, toujours, c'est pas le... Il y en a partout. Et ils ont essaimé énormément partout au Pérou. Et ça a été, je pense que c'est un des socles déterminants. Mais si on fait une comparaison avec la Révolution espagnole, c'était quoi? Les gars dans les campagnes, ils demandaient quoi? Ils demandaient l'éducation. Qu'est-ce que leur apportait la CNT en leur faisant lire les journaux de la CNT? Ils leur apprenaient à lire et à écrire. Et ils demandaient pas beaucoup plus, hein, ils demandaient ça, du pain. Enfin, j'exagère à peine. Hein. C'est tellement, on l'a complètement oublié. Mais pour des sociétés qui en sont là, sociétés rurales ultra exploitées qui en sont à ce niveau-là, elles savent très bien que la domination sociale de classe des dirigeants, etc., elle passe par l'ignorance. Et c'est la domination aussi des curés. La domination des curés. Sauf que les curés qui avaient à savoir, c'est des mecs, ils ont plutôt théologie de la libération. Et il y a même un petit malin qui a été en Israël, qui est tombé en amour avec les kibbutz, et un autre qui a été en Yougoslavie et qui trouve ça génial. voilà. C'est fondamental. Le coup de l'éducation et la culture, c'est quelque chose de totalement fondamental dans cette révolution-là. Et je crois que le peu que j'en sais, c'est au Rojava, c'est pareil.
Alors, Rojava, c'est totalement identique parce que c'est pas compliqué. Les Kurdes ont été maintenus dans un taux d'analphabétisme absolument délirant, que ce soit par les Turcs, que ce soit par les Iraniens, que ce soit par les Irakiens, que ce soit par les Syriens. La politique explicite de tous ces gouvernements-là, c'est les Kurdes, on leur apprend surtout pas à lire. Et donc récemment, à nouveau, en 2019, moi je suis allé dans une bibliothèque associative kurde, donc tenue par une bibliothécaire. Je tombe sur un gros livre qui était un dictionnaire kurdo-français. Waouh, génial, je voudrais l'acheter. Ah, il n'y avait pas l'étiquette avec le prix. Donc la bibliothécaire, personne qui est censée savoir lire, n'est-ce pas, prend le listing où il y avait tous les prix, elle le regarde, elle sort son index.
C'est pas plutôt une libraire, non?
Les deux, il y avait les deux. Et elle déchiffre lettre par lettre, chaque titre de livre et chaque prix. Il y en avait une trentaine. C'était en kurde. Moi, j'avais déjà compris où était mon dictionnaire. Et c'était donc un bibliothécaire, deux libraires. Et là, je me suis rendu compte, c'était une femme de 30 ans. C'était évident. Elle avait dû apprendre à lire il y avait un an, il y avait 6 mois. Elle en était encore à devoir épeler, reconnaître lettre par lettre. Et ça, c'est à nouveau, c'est 2019. Et c'est pareil, il y a une explosion de la demande d'éducation et de compréhension, d'alphabétisation, parce que, exactement, les gens sont parfaitement conscients d'un truc, c'est qu'on les a maintenus dans l'analphabétisme dans un but absolument bien précis. Ça a été une politique tout à fait exécutée de manière... c'était très sciemment.
on va continuer. On va arrêter juste deux minutes avant la fin. On a encore deux minutes. Si on peut conclure, ça va aller. Après, il y a le générique. Puis après, il faut lancer l'émission d'après.
Oui, il y a une émission d'après qui est plutôt intéressante, n'est-ce pas?
Oui, qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme conclusion, puisque on chasse des antennes.
Alors, la conclusion, en tout cas, je ne sais pas si c'est la conclusion, mais j'ai un petit soupçon qu'il va être d'accord avec moi. Bon, la conclusion, c'est que l'expérience de Villa Salvador est fabuleusement précieuse, parce qu'elle montre que l'autogestion, quelle que soit la signification qu'on donne à ce mot, l'autogestion, non seulement elle est possible, mais elle est réalisable à grande échelle. À nouveau, maintenant, on sait, entre l'Espagne de 1936, l'Ukraine de Makhno, Villa Salvador et d'autres lieux un peu similaires en Amérique du Sud, le Rojava, le Chiapas, à petite échelle Christiania et d'autres lieux similaires, on sait maintenant que concrètement, parler d'utopie et d'anarchisme en même temps, désolé, c'est faux. C'est complètement faux. L'anarchisme, c'est une idéologie, c'est une vision du monde concrète, réaliste. Non seulement réaliste, mais réalisable, et surtout, qui a été déjà plus ou moins réalisé, et ces exemples-là le prouvent. Quand on dit, mais non, les gens se taperont dessus tout le temps, ça sera l'homme est un loup pour l'homme. Désolé, c'est pas vrai. Ça marche.
Non, c'est surtout ceux qui veulent pas que ça se réalise qui tapent dessus.
Je crois que c'est ça, c'est que l'échec, les grandes causes d'échec de beaucoup de tentatives comme ça sont en général des causes extérieures. C'est-à-dire qu'arrive une armée et qui flingue tout le monde. Mais quand, par miracle ou par chance ou par un mélange de miracles, de chance, etc., eh bien, telle ou telle expérience peut survivre, eh bien, ça survit très très bien. Tous les fonctionnements réellement collectifs, c'est très, j'aime pas ce mot, mais c'est très résilient. Et à nouveau, alors j'ai pris l'exemple des doges, mais les monastères catholiques, mine de rien, c'est des communautés qui tiennent extrêmement bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont réellement communautaires. Bon, évidemment, les monastères catholiques, c'est aussi qu'ils exploitent les paysans tout autour. C'est autre chose. Mais franchement, je crois que c'est ça qu'on peut tirer de ce qu'on vient de dire. Je présume que Jean-Michel va être d'accord, c'est que c'est réalisable.
Alors, je vais mettre un bémol pour le plaisir de ne pas être d'accord. Tu vois. pas être complètement d'accord. C'est-à-dire, c'est pas une question d'être d'accord ou pas. C'est de dire autrement. C'est les monastères chrétiens, catholiques, là, ils marchent bien, etc. Parce que c'est un microcosme. Mm-hmm. C'est une toute petite échelle. Moi, je dirais que le Villa Salvador d'aujourd'hui n'est plus le Villa Salvador des années 70. Mm-hmm. Il y a des changements profonds. Parce que ce lieu-là était symboliquement très dangereux et il a été attaqué de toutes parts. Il a été attaqué par le sentier lumineux, par l'armée, par la police. Mais il a été attaqué par beaucoup plus puissant que le sentier, la police et l'armée. D'un coup, c'est les supermarchés chiliens et l'économie informelle. Parce que les mecs, ils avaient besoin de croûter, ils avaient besoin d'acheter. Voilà, c'est, donc ce serait trop long à développer. La question d'un endroit comme Villa Salvador, c'est un, d'un côté, l'utopie a fait long feu. L'utopie a duré, moi je crois pas qu'on est dans la même phase du tout qu'il y a 40 ans, etc. Et le système a réattaqué de toutes parts, voilà. C'est le constat qu'on peut faire. La commune, elle a duré moins de 60 jours. Villa Salvador a duré 40 ans, on va dire. Bah, c'est quand même plutôt pas mal. La commune, comme Villa Salvador, comme la Révolution espagnole, comme le Rojava, etc., ne se mesure pas, à mes yeux, à l'onde de ce que, visiblement, sur le lieu même dit, on voit un début, un milieu, une fin. C'est pas comme ça qu'on peut le mesurer. C'est quelles sont toutes les graines que le Rojava est en train de semer de par le monde? Quelles sont toutes les graines que la commune de Paris, quel est le bouleversement mondial qui a provoqué la commune de Paris? Si on prend la commune de Paris en tant que telle toute seule, c'est un échec. Ben, c'est tout sauf un échec. Tous les combats des... Enfin voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut le lire. Et de ce point de vue-là, Villa Salvador, oui, c'est fait en partie bouffé par les supermarchés chiliens, mais a créé un nombre, a fait naître et a fait grandir en son sein un nombre incalculable de gens qui, je le disais tout à l'heure, de par le monde, sont des gens qui sont dans l'action, et dans l'action sociale, et dans l'action culturelle, dans l'action politique, pour la transformation du monde. Et donc, moi, voilà, c'est comme ça. Mais je veux pas. Jamais j'ai pu, mais même à l'époque, hein, bluffé sur waouh, c'est le paradis, c'est voilà, c'est le paradis sur terre. C'est le, voilà, c'est ce sont des utopies en marche. Moi j'aime, moi le mot utopie me dérange pas. Ce sont des utopies, en, ce sont des utopies en marche. L'utopie c'est quelque chose de concret aussi. C'est quelque chose de concret. Mais on veut toujours enfermer l'utopie dans un truc figé qui nous a nous démontré que ça marche. Ben, y a rien qui, au bout du compte, il n'y a rien qui marche. Et il y a plein de choses qui marchent. Voilà, c'est plus comme ça. Je, sais pas, je me suis peut-être très mal exprimé.
Non,
mais,
très bien compris l'idée.
Voilà, c'est moi, le fait qu'il n'y ait plus un gamin, il n'y ait plus un gamin de Villel Salvador qui ne sache pas lire et écrire, qu'il y ait plein de gamins à Villel Salvador qui s'appellent Victor Hugo, Voltaire, alors Lénine aussi, ça s'appelle Lénine.
Personne n'est parfait.
Mais voilà, il y a les il y a une ouverture sur le monde. Alors, les autres, ils ont voulu mondialiser, et eux, ils se sont ouverts sur le monde. On n'est pas dans le même truc, etc., etc. Et il y a une reconnaissance du monde andin et de l'histoire andine qu'il n'y avait absolument pas il y a 40 ans au Pérou. Et Villel Salvador est le principal artisan de cette renaissance. Voilà.
C'était une très belle conclusion. Et puis, ça, dire que Villel Salvador s'est fait bouffer par les supermarchés, ça fait le lien avec le syndicat du commerce de la CNT qui anime cette émission.
Bien sûr, en vrai, c'est pas vrai.
Ça s'appelle se rattraper aux branches. Non, ça s'appelle se rattraper aux têtes de gondole. Alors, les têtes de gondole avec les doges vénitiens, bon, glissons.
Ah bah, on va conclure là parce qu'il y a une émission juste après. Donc, merci Jean-Michel.
Bah, merci à vous. Merci à
Et puis,
vous.
Alors, où est-ce qu'on peut trouver
ça, c'est
le film
ça,
c'est il est sorti en DVD.
Oui, il est sorti en DVD.
Il se trouve dans les librairies aujourd'hui. Publico,
oui, c'est ça. Et puis, par le biais de gens comme Publico, il peut y avoir des liens qui sont envoyés, etc. C'est un film qui commence à avoir un certain âge. Il est intemporel, justement. C'est. On peut le voir dans 10 ans, ça ne changera pas grand-chose dans, dans les enseignements qu'on peut en tirer.
Ouais.
Peut-être que tu en feras un autre dans 10 ans. Non, je ne referai pas. Non.
Retour à Villel Salvador. Merci Jean-Manuel. Attends, si du coup, bah, tu vas, où est-ce qu'on trouve ton bouquin ?
Sur à Christiania. Publico, à Publico, probablement. On peut écrire directement à l'atelier de création libertaire, mais dans Paris, à nouveau, Publico et Quilombo au moins. Et puis, les bonnes librairies anarchistes un peu partout peuvent le trouver sans difficulté.
Eric, et nous dirons au revoir, comme ça on aura entendu ta voix.
J'ai beaucoup écouté, c'était très intéressant. Et. Pour ne pas gâcher l'émission, je ne vais pas poser des questions.
Il est 21h04, hein, donc là, de toute façon, on ne peut plus. Merci Bénédicte d'avoir assuré la technique, même si tu t'es planté de jingle. Hein, pour ma chronique,
il
ça,
est méchant,
juste.
Il est
alors
méchant.
Ça me reste à travers la gorge. Hein.
Il est méchant.
Et puis, chers auditeurs, demain, vous avez une manif.
Triste.
Oui, auditrice. Non, mais maintenant, je fais. Comme j'en ai marre des. L'écriture inclusive, tout ça, je fais tout au masculin. Voilà. J'espère que vous allez m'engueuler, chers auditeurs, chères auditrices. Mais c'est vrai qu'en général, je fais. Ah, ça me saoule, ça me gave.
Et on a donc une manière.
Dans ta nomenclature des expériences tu as de révolutionnaires d'autogestion, tu n'as pas cité le 33 rue des Vignoles. Le passage.
Bon, syndicat de la CNT.
Juste un passage. Hein. Il y a que là qu'il y a
mine de rien. Oui, mine de rien, la CNT, les différentes CNT, ça fait longtemps que ça dure.
Non, il n'y a qu'une CNT, les autres, c'est les escrocs.
je parlais de l'espagnol.
Ah oui. C'est espagnol.
Bon, mine de rien, oui.
Oui, on va lancer l'émission. Donc,
qui est drôlement bien.
Je vous remercie d'être venu. Et puis. Les muses s'amusent vont suivre après. Alors lance le générique de fin, tiens, voilà, pendant que je cause.
Vous avez tous.
C'est pas trop fort. Et puis, vous allez retrouver comment ça s'appelle les muses s'amusent. Donc.
Enfin, on va terminer cette longue analyse de l'art moderne et de comment ça fonctionne, l'art moderne. Donc, voilà, quatrième et dernière émission sur le sujet.
Je veux. C'est que vous, partout.
que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Radio Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.